Take a seat. Hope you're ready for the next episode.
Bonjour, bonsoir, c'est Manu et je suis très heureux de vous présenter ce nouvel épisode de Radio Cassette. Dans chaque épisode de Radio Cassette, on vous raconte l'histoire d'un disque culte des 90s qui a marqué nos années collège. On vous parle de grunge, de dance ou de R&B, de tous ces albums qu'on a un jour enregistrés sur cassette. Dans cet épisode, on va vous parler de Andre Young, alias Dr. Dre. C'est le grand Manitou du rap West Coast. C'est un rappeur et surtout un producteur de génie. En 1999, il donne enfin au monde la suite d'un premier album solo, The Chronic, paru 7 ans plus tôt. Sur ce nouvel album, étonnamment baptisé 2001, Dr. Dre embarque ses vieux copains Snoop et Ned Dogg, et des nouvelles têtes comme Hitman et Eminem. Dès sa sortie, l'album est une bombe. Il contient une liste incroyable de tubes hardcore au groove imparable. Still GRE, Forgot About Dre et The Next Episode. 2001 est un classique et peut-être même un des albums les plus influents de l'histoire du rap. On en parle aujourd'hui avec mes homies du Radio Cassette Crew. On va parler de la story de Dr. Dre avec Olivia.
Salut Manu!
On va parler du making of avec Grégoire.
Hey, salut les bitches!
Ça commence!
Et on va parler du clip et de la pochette avec Fanny.
Yo yo yo!
Alors c'est parti pour une virée en 1999 direction LA. On va commencer par réécouter l'album en mode Fast and Furious. Installez-vous confortablement sur la banquette arrière. C'est parti.
Just play this and they Benzes, Jeeps, and Geos. Don't wanna treat you wrong. Don't wanna lead you on. Here, baby, hit the bone while the West Coast rolls along. Why we?
What's the difference between me and you? You talk a good one, but you don't do what you're supposed to do. I act on what I feel and never deal with emotions. I'm used to living big love style with straight coasting. What's the difference between me and you?
Chronic 2000.
One, that means we're taking over this year. Yeah, here, here.
Light speed, blazing chronic through the galaxy. Hydro, Doja, chocolate, Thai weed. Or we might be sipping on gin or Hennessy. Fuck that, we're that new shit, the chronic iced tea.
Great. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say. But nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish and motherfuckers act like they forgot about Dre. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say. But nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish and motherfuckers act like they forgot about Dre.
It's the motherfucking Eagle Double G.
Snoop Dogg.
You know I'm hopping with the D-R-E.
Get high, all my ladies, let's get high. High, let's get high. Come on, let's get high.
Bitch nigga, a bitch nigga, a bitch nigga, a hella bitch nigga, use a bitch nigga.
Fuck you, nigga, touch me. Come on, bitch, just a city bot. Yeah, nigga, all y'all. For real, you'll fuck around and get killed.
It don't stop. We still mashing our pursuit from the cops. Analyze why we act this way.
In the end, a bitch is a bitch, but a dog is a man's best friend. So what you found, you a hoe that you lie. But you can't make a hoe
a housewife. I'm the type of nigga player haters don't like, snatching up your honey for some late night hype. The snobby ass bitches get slapped out of spite. Spike, so give a nigga some act right.
Frontin' on the act right.
Never should do. We could have used time spent arguing, telling the truth. He had talent too. I had plans of watching him blow. Don't know what hurts more, seeing him leave or watching him go.
Yeah, ça défonce tellement. Voilà pour les 22 titres de 2001, connus également sous le nom de Chronique 2001 ou 2001. On va expliquer pourquoi dans cet épisode, c'est le deuxième album studio de Dr. Dre qui, comme son nom ne l'indique pas, sort le 16 novembre 1999 en double vinyle, cassette et compact disque.
J'ai cru que tu allais dire, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas docteur non plus.
C'est vrai. C'est un méga carton aux US dès la première semaine, mais pas en France. Parce que pendant ce temps-là, nous, on écoute plutôt La Rousseau avec Tu m'oublieras.
On a bien raison.
Je plaide coupable.
On écoute Tomber la chemise de Zebda.
Je plaide coupable.
Qui tous dominent les stars internationales comme Britney Spears et Manu Chao. Cette année-là marque aussi le début de la grande série des comédies musicales. Souvenez-vous, c'est Notre-Dame de Paris. On va en prendre pour quelques années. Et côté rap, on décide enfin de créer une catégorie rap groove aux victoires de la musique. Et cette année, les nominés sont NTM, Arsenic et MC Solar. Alors, à votre avis, qui a gagné ?
Solar.
Je pense que c'est Solar, ouais. Il me semble. Hein.
Je pense aussi, ouais. Je sais pas.
Eh ben perdu, c'était Mano avec Panic Celtic. Applaudissements.
Je vous le cite pas, comment on peut savoir?
Bah ouais.
Oh là là,
c'est moche ce que tu fais, Manu, c'est moche.
C'était un peu un troll pour ses premières victoires de la musique, c'était un coup dur.
Mais c'est sérieux ou pas?
C'est très sérieux.
C'est très sérieux.
En 1999, c'est aussi les débuts de Napster. Il y a déjà 150 000 utilisateurs en octobre aux US. Mais en France, tout le monde s'en fout.
Il y avait moi, j'étais dessus. En octobre 99. Tous les jours. Ah ouais.
Sauf Dr. Dre, hein, qui est parti dans une croisade anti-Napster.
Ça, c'est sûr.
De fou, ouais.
On va y venir. Donc en France, tout le monde s'en fout. On se dit que de toute façon, le risque est bien trop faible. Je rappelle qu'à l'époque, il faut au moins 10 minutes pour télécharger un MP3.
Ah, facile, hein.
Voilà, on est tous sur un modem.
Avec la petite musique. Je voudrais embrasser mon père qui m'a engueulé des années parce que je bloquais la ligne téléphonique.
C'est clair, et toi t'es comme un ouf. Mais pourquoi maman t'a décroché? T'en étais à ta 9e minute, t'en peux plus quoi. Alors on va commencer par faire un petit tour de table. Vos souvenirs, Dr. Dre, ça t'évoque quoi, Olivia?
Alors écoute, moi en 99 ça m'évoque pas énormément de choses pour une raison assez simple. C'est que bon, j'étais un peu jeune. Premièrement. Et deuxièmement, je trouvais qu'à l'époque, c'était un petit peu compliqué pour une jeune fille de 15 ans de trouver sa place dans cette musique. En termes d'image que renvoie le rap par rapport à la femme, si tu veux, si t'es pas en maillot de bain, ultra gaulé, dans une voiture décapotable, ben j'avais un peu de peine à...
Ça veut dire que t'écoutais les paroles, parce que moi, j'écoutais pas les paroles.
Non,
j'étais à fond dedans.
Je regardais les clips, enfin, il y avait toute une imagerie quand même qui était véhiculée autour de tous ces artistes US rap américains. Et franchement, j'avais un petit peu du mal. J'aimais bien la musique, je trouvais ça vachement entraînant, etc. Mais je trouvais que c'était un truc de bonhomme, tu vois, ils étaient entre eux, etc.
Bah voilà. Ouais, c'est un peu ça quand même en même temps.
C'est
plutôt manspreading
Mais tu vois, c'était quand même. J'étais super jeune et déjà, c'était peut-être pas quelque chose que je verbalisais, mais voilà, j'arrivais pas trop à me dire ah ouais, waouh.
Tu sentais que t'avais pas ta place.
Ouais. Non, j'avais pas ma place. Ouais. Voilà. En tant que meuf blanche, pardon, je pavais dans la mare, mais.
Boum. Le mythe s'effondre, putain, merde.
Mais voilà, pour moi, c'était compliqué. Je savais pas par quelle porte rentrer, en fait. Voilà.
Je comprends ce que tu dis. Moi, j'étais complètement tiraillée entre deux trucs parce que j'écoutais ça à fond. À cette période-là, 99, alors l'album est sorti fin 99, mais moi, clairement, en 2000 et 2001, c'était les albums de Dr. Dre et d'Eminem qui tournaient en boucle.
Ouais, ouais, ouais.
Et sur les CD gravés, sur les premiers MP3, et je crois même à cette époque-là, j'avais encore un Walkman et j'avais des morceaux de Dre sur mes mixtapes. Ouais, j'étais très, 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 très fan de cet album à l'époque et toujours maintenant. Et ça me rappelle exactement tous mes souvenirs de collège. collège, mes bandes de potes, les bons moments ensemble. Je me rappelle de débats justement sur qui a le meilleur flow entre Dre et Eminem.
Alors,
je me rappelle aussi que ça me choquait, mais.
Mais t'aimais bien ça.
Non, justement, j'aimais bien ça, mais je faisais l'autruche. Je faisais l'autruche parce que il y a quelque chose dans cette musique que j'avais envie de continuer à aimer, donc je fermais les yeux sur tout ce qu'elle est pas pour pouvoir écouter.
Mais c'était même pas fermer les yeux, parce que finalement, si tu veux, je pense que j'explicitais même pas vraiment le truc. C'était simplement que j'arrivais pas à trouver comment être en adhérence avec ce truc-là. C'était même pas me dire ouh là là, ils disent des gros mots, c'est vilain.
Mais même musicalement, ça te parlait pas. Alors.
Si, ça me parlait carrément, mais j'avais du mal à m'identifier en fait. C'était vraiment ça plutôt.
Ok. Voilà. Donc, en gros, t'écoutais pas trop toi, Olivia.
Moyennement.
Ok. Et toi, Greg ?
Alors moi, j'écoutais pas trop, mais j'ai découvert cet album, je pense, avec les potes de mon cousin, avec qui je traînais beaucoup à l'époque. Et je me souviens notamment d'un nouvel an. Et pas n'importe quel nouvel an, puisque c'était le nouvel an de l'an 2000.
Le bug.
À l'époque, on écoutait Donne-moi des bonnes raisons de fêter ce nouveau millénaire.
Millénaire.
Ouais, ce morceau.
Bah oui.
Et je me rappelle que pendant ce nouvel an, du coup, il y a plein de morceaux de Dr. Dre, parce que eux étaient très rap.
Ouais.
Les potes de mon cousin, donc du coup, on écoutait ces morceaux. Et ouais, je trouvais ça mortel. Après, j'écoutais pas spécialement du rap, mais je me souviens que je kiffais ces morceaux.
Après, je sais pas si c'était comme ça chez vous, mais nous, il y avait quand même des bandes. Moi, j'étais quand même un peu la bande rock, tu vois.
Oui, moi
pareil.
Côté
un peu indé, etc. Et j'étais pas dans la bande rap. Peut-être que ça aurait été différent si j'avais eu des potes qui écoutaient du rap.
Ouais.
Mais j'étais pas dans cette bande-là.
Mais dans ma classe, j'appréciais quand même. Ouais,
dans ma classe, j'avais pas le choix. Il y avait une classe entièrement bande rap. et c'est vrai, je reconnais qu'il y avait ce truc. Alors, je sais pas, en vieillissant et en analysant, je me dis que c'était peut-être un truc de pression sociale, mais il y a aussi un truc d'appartenance. Et en fait, tous les soirs, je rentrais à la maison, je faisais mes devoirs et après, je me branchais sur Skyrock et j'écoutais D-Fool et Romano. Et
à l'époque, t'écoutais ça vraiment ?
Ouais,
ah, c'est génial.
Tous les soirs.
Je découvre des trucs à chaque émission.
J'écoutais ça tous les jours et le lendemain, effectivement, on débriefait. Que ce soit rap US, rap français, ça, c'est vraiment, vraiment ce qui m'a construite à 14, 15 ans. Et après, pour le coup, dès que j'ai quitté le lycée, hop, j'ai quitté aussi le rap.
Et toi, ouais. Manu, ça t'évoque quoi ?
Alors moi, ça m'évoque un truc assez marrant, c'était l'odeur des chaussettes qu'il y avait dans les vestiaires.
Ne t'en dis pas plus.
Non, mais il faut que je vous explique.
La savonnette et tout, quoi.
Non, c'est pas ce que j'ai dit, Greg. On est à Versailles.
Oula !
À l'époque,
trop de mots-clés. Savonnette, chaussettes, Versailles.
En fait, à l'époque, donc je suis à Versailles, on est au stade Sans Souci. C'est le vrai nom du stade. Hein. Et il y a un mec qui passe Steel Dre avec son enceinte dans le vestiaire d'à côté.
Sauf qu'on disait Steel Dre à l'époque.
Ouais. ça, je l'ai su après. Donc j'entends ce morceau. D'abord, je le trouve génial. Je le kiffe direct parce qu'il y a ce petit piano sautillant.
Ouais.
Et voilà. Et donc je fais tout pour retrouver ce titre. Je rappelle qu'on est en 1999.
Il
n'y
a pas Shazam.
Il n'y a pas Internet. Moi, je n'ai pas Internet. Alors, le soir, je me connecte sur Skyrock. Je cherche. Je n'ai pas l'habitude d'écouter ça.
Tu te connectes sur Skyrock.
Je me connecte absolument avec mon poste radio cassette. Et je vais chercher donc 96 FM. Et là, je mets la cassette sur pause. Je suis prêt à enregistrer. Et j'ai du bol parce que je n'ai pas besoin d'attendre longtemps pour tomber sur le titre. Et je pense qu'en même temps, il devait passer facile 50 fois par jour à l'antenne. Et voilà, donc là, je l'ai enregistré, je me le suis repassé en boucle. Et puis voilà, c'était une des rares fois où je suis allé écouter un peu Skyrock, parce que j'écoutais pas tellement. Et puis, j'ai découvert aussi plein d'autres trucs, le 113, For My People à l'époque, qui passait en même temps, quoi.
C'était une
quelle
belle
histoire, Manu.
On va parler maintenant de l'histoire d'un succès. On va revenir un petit peu sur cet album et sur l'histoire, Olivia.
Mais tout à fait, mon cher Manu, c'est ma partie, je crois bien.
Absolument, parce que 2001, il sort en 99.
C'est ça. Alors bon, le mec quand même mis un petit souci en 2001 en 99, mais bon, on y reviendra.
À Compton.
Donc voilà, tu l'as dit, ça devient très rapidement une grosse, grosse machine à tube. C'est vraiment l'album de référence, une réinvention du son gangsta rap californien. Alors, Pour t'expliquer un peu l'impact de l'album, sache que si ton jeune cousin Étienne, 12 ans, ponctue ses phrases de « nigga, motherfucker, bitch », alors que bon, il se tape quand même des vieux 6 de moyenne en anglais, qu'il imagine que bon, la vie, c'est des gros cylindrés remplis de zouz en monokini, et qu'il hurle « I gave her some Hennessy, she gave me some head ». Bon, je traduis pas, mais semblerait que la jeune dame fasse quelque chose avec sa tête en échange d'un peu de vin qui pique. Eh bien, c'est en grande partie à cause de ce cher Dr. Dre.
Ou grâce, hein, c'est selon.
C'est selon. En tout cas, voilà, 2001 est considéré comme un des albums références de l'histoire, dans l'histoire du rap. Il y a clairement un avant et un après. Le disque s'est écoulé, tenez-vous bien, à 7,5 millions d'exemplaires aux États-Unis et plus de 10 millions dans le monde. Vous faites le calcul, ça fait quasiment 18 millions. L'album... ouais, je sais.
Elle est forte, elle est très très forte.
Une calculatrice à la place du cerveau.
L'album a directement démarré à la deuxième place du Billboard 200 avec 550 000 unités vendues en une seule semaine. Boum !
Boum !
Ouais. Alors, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance, je vous ai retrouvé une petite pub qui tournait à l'époque sur Skyrock. Vous allez voir que, pour qu'on comprenne bien que c'est pas de la musique de fillette, ben les mecs, ils ont sorti les plus grosses voix bien graves.
Skyrock présente Dr. Dre. Maître est de retour.
Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. I'm representing for the gangsters.
Avec Snoop Dogg, Mary J. Blige et Eminem. Chronique 2001, le nouvel album de Dr. Dre. Un disque universal.
Universal. Ils en font des tonnes, quoi.
C'est mortel, j'aurais dû faire mon intro comme ça, en fait, on va la refaire.
T'as pas un plugin pour faire la voix?
Non, mais je peux parler comme ça, tu déconnes ou quoi?
Sexy.
Plugin John Moreau.
Alors, pardon, mais comment tout ça a commencé, hein? Donc, 96, revenons un petit peu en arrière. Dr. Dre prend l'une des décisions les plus importantes de sa vie et quitte le label Death Row, avec lequel il a notamment produit The Chronic en 92 et Doggy Style de Snoop Doggy Dogg en 93. Death Row est devenu incontournable dans le rap game et se place dans tous les classements des ventes d'albums. Mais depuis quelques années, la rivalité entre Los Angeles et New York est devenue de plus en plus forte et Dr. Dre refuse de prendre part à cette escalade de la violence.
Alors moi, à l'époque, je me rappelle aussi que je faisais des doubles
West
avec
Coast.
Mes doigts. Je faisais
des...
J'ai du mal à l'imaginer aujourd'hui. Mais...
des W là, West
moi, mon cousin m'avait appris à faire Blood avec mes doigts. Oh. Tu pouvais écrire Blood.
Sérieux ?
J'étais hyper fière. Je ferai une photo, évidemment, pour les réseaux sociaux.
C'était un gang en Suisse ?
Non, c'était mon cousin de Miami.
Putain.
Les gangstas du canton de Vaud.
Du canton de Vaud.
Pardon.
Oh mon Dieu. Je désolé. Quitte ce podcast désolé. Immédiatement. Bon, soyons sérieux.
Bisous la Suisse.
Donc, ce qu'il faut quand même bien garder en tête, c'est qu'à l'époque, la violence est partout, dans la rue, à la maison, à l'école. Et quelques mois plus tard à peine, en 92, des énormes émeutes vont éclater à Los Angeles. On va assister à des scènes super violentes, les magasins sont pillés, les flics tirent à balles réelles sur la foule, c'est vraiment vraiment chaud quoi. Donc cette violence policière, c'est effectivement ce qui va venir aussi nourrir le flot des rappeurs, évidemment. Ces mêmes rappeurs qui eux-mêmes sont pas tout à fait en reste côté violence. Beaucoup de règlements de compte, beaucoup de conflits, évidemment tout ça fait partie de la mythologie East Coast versus West Coast. On est d'accord, mais il va y avoir un point de non-retour et c'est évidemment la mort de Tupac. Enfin, s'il est mort et s'il n'est pas sur une île déserte avec Elvis.
Rest in peace.
Et Michael Jackson.
Bref, Dre est fatigué et affecté de tout ça et aussi il est très fatigué des excès de Death Row et des escroqueries de son boss Suge Knight. Dre finit par claquer la porte du label début 96. Son ami et mentor Jimmy Iovine lui propose d'ouvrir son propre label, ce sera Aftermath, la conséquence en français dans le texte. Dre a une idée en tête, lancer des nouveaux talents et devenir un son de référence. Les débuts sont un peu compliqués, Dre expliquera plus tard que ce fut pour lui une période de doute, il était un peu largué, il se sent un peu seul. D'ailleurs dans les Arocs, il explique
« Cette période de ma vie, musicalement parlant, était complètement détraquée. Je n'étais pas dans le coup, j'ai essayé de trouver ma voix. C'est quelque chose qui arrive chez les artistes. Ce fut l'un de mes plus grands moments de doute, alors qu'en façade, on faisait tous comme si tout allait. Tout ne va pas toujours comme on le voudrait, mais j'ai essayé de trouver ma voix et heureusement, Eminem est arrivé à point nommé. »
Et voilà, en fait, Eminem, c'est vraiment le déclic. Comme l'avait été Snoop quelques années auparavant. Il va réveiller la créativité de Dre qui s'autorise à aller plus loin dans l'irrévérence. 2001, c'est donc l'album du comeback. Dre a une énorme pression. Comment faire mieux que The Chronic, son premier album sorti en 93, devenu un classique absolu du gangsta rap, et comment surprendre après l'accueil plutôt mitigé de son nouveau label 2 ans plus tôt. Pour la jeune génération, il fait aussi déjà partie des anciens. Ça va quand même très très vite dans le rap. Il faut quelques années à peine, était déjà complètement en dehors du game. Dre doit donc montrer qu'il est encore complètement en phase avec son public et ses préoccupations.
C'est qui le patron ?
C'est ça, voilà. Il doit prouver qu'il n'a rien perdu de son mordant et de sa crédibilité.
Mais alors, pourquoi ce titre 2001, du coup ?
L'album devait d'abord s'appeler The Chronic 2000, histoire de créer une sorte de filiation avec son premier album sorti en 93. Mais il va devoir abandonner le nom à cause de Suge Knight et de Death Row, qui ont quand même bien décidé d'emmerder leur ancien producteur.
Suge Knight, c'est un peu le Dark Vador du...
C'est ça.
C'est le gros méchant, quoi.
Mais grave. En fait, c'est ouf, il ressemble tellement à l'oncle Philippe dans Le Prince de Bel-Air, quoi. C'est ouf,
mais c'est le même,
mais en plus grand, quoi. T'as vraiment l'impression que c'est un boss, un méchant dans Street Fighter, quoi.
Donc en gros, ils décident de refuser le nom The Chronic, et même pour pousser le vice un peu plus loin, ils vont sortir de leur côté une compilation du nom de The Chronic 2000 en mai 99.
C'est vraiment un coup,
c'est vraiment vicieux, quoi. Donc d'ailleurs, Dre va prendre la parole à ce sujet et dit que cette combine de Suge puait la merde. C'était une tentative pour me griller car j'avais dit que ce serait le titre de mon prochain album. Mes anciens associés de Death Row détiennent les droits du nom Chronique et comme on était dans un contexte assez hostile, j'ai préféré ne pas utiliser ce mot. Mais en fait, on s'en fout de ce qu'il y a sur la pochette. Ce qui compte, c'est ce qui sort des haut-parleurs.
Boum. Ce jeu-là, c'est pas le plus mauvais.
Non, ça c'est sûr. Si Dre ne peut pas garder le nom, donc il va en effet garder le logo en forme de feuille de marijuana qu'il avait déjà utilisé donc sur le précédent Chronique. Les fans seront s'y retrouver.
Alors, si je me rappelle bien, c'était un type de weed hydroponique, c'est-à-dire c'est une manière de la faire pousser hors sol.
À la maison,
et,
quoi.
Et la première fois qu'ils ont fumé ce truc-là, ils étaient tellement défoncés qu'ils croyaient qu'on disait hydrochronique. Et après, ils étaient hydrochronique, genre c'est la meilleure weed, c'est la chronique. Et sauf que c'est eux qui ont inventé ce nom.
Oui, ça sortait de nulle part, en fait. Voilà. Le truc est juste Snoop qui était
c'est
encore défoncé.
Un trip de fonce dé, quoi.
Voilà, c'est ça.
Alors moi, je suis allé faire mes petites recherches. Et sur un site de vente en ligne, j'ai vu que donc, la chronique existe. Hein, maintenant, c'est devenu une espèce et c'est clairement,
référence,
vendu sous le nom chronique. Voilà. Ouais. Alors, je vous la fais. Chronique illumine vos papilles et offre des notes succulentes de nectar d'orange, de poivre et de citron. Ce splendide mélange est complété par le profil odorant de la variété qui inclut des notes acides, sucrées et épicées.
Et d'ailleurs, je vous en ai ramené un petit pochon.
Ouais, super. Non mais alors, franchement, moi j'aimerais connaître le mec dont c'est le boulot de décrire les saveurs de la weed. Parce que je trouve que c'est un vrai talent quand même, tu vois.
Bah, on est sur un coffee shop en ligne, je peux te payer l'adresse si ça t'intéresse.
S'il cherche du monde comme rédacteur, aucun problème. Donc, il décide de l'appeler 2001, j'en suis là, hein, je reprends un petit peu mes petites histoires, comme pour annoncer un petit peu, on va dire, son arrivée dans le troisième millénaire, et évidemment, un petit peu avant tout le monde. Et ça, c'est la force de notre ami Dr. Dre. Pour l'enregistrement de ce nouvel album, Dre s'entoure d'auteurs de talent, notamment Eminem, évidemment, mais aussi Jay-Z et The D.O.C., et bien sûr Snoop Dogg et Mary J. Blige. En gros, la grosse Dream Team de L.A.
Ils ne sont pas tous cités. Jay-Z, c'est un ghostwriter, non, il n'est pas cité.
Il n'est pas cité, ouais, exactement. Mais il est quand même là.
Il n'est pas assez bon, t'as vu.
Boom, New York. Tous les textes s'affranchissent complètement d'une quelconque bienséance avec des morceaux assez crus et parfois franchement misogynes. Hein. Fuck you, let's get high, housewife.
Ouais, c'est assez transparent, je pense qu'on n'a pas besoin de traduire.
On n'a pas besoin de traduire, tout à fait. Donc au départ, il voulait se donner une image respectable après son départ de Death Row. Dre raconte d'ailleurs au New York Times que c'est sa femme qui va lui dire de revenir à quelque chose de moins poli.
Bravo madame.
Alors, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce sujet, parce que je me suis amusé à compter les termes qui sont employés sur 2001. Alors,
tu t'ennuies, toi, un petit peu le soir ? Comment ça se passe ?
Il fait des tableaux Excel.
J'ai que ça à foutre en ce moment.
Jean-Michel, statistique.
Alors, j'ai pris mon petit stylo et j'ai compté.
Alors, 12 de bit phase. Alors,
à mon avis, Bitches, on est pas loin, on doit être pas loin de la centaine, je pense.
Ouais, ouais, tu vas voir, je vous ai fait le topito des mots interdits. Alors, on commence à la 4e place.
Ouh.
Nous avons le mot fuck qui est cité 77 fois
dans
l'album.
Non, mais sans déconner, t'as fait quoi? T'as fait copier-coller et puis après, t'as... dis-moi!
C'est un secret.
Un stabilo qui était de couleur jaune pour le mot fuck.
Voilà.
De couleur rose pour le mot shit qui est en 3e position avec qui est cité 82 fois.
Oh là là. Richesse de vocabulaire de ces mecs, quoi.
En 2e position, nous avons le mot bitch avec 120 occurrences.
Qui veut donc dire la plage, on est bien d'accord.
Ouais. Voilà, et vous avez peut-être...
Danny Boyle.
Et vous avez peut-être trouvé ce qui est à la première place, c'est le mot...
Fuck,
Nigga, bah oui, t'as pas suivi, on l'a déjà dit.
Ah oui, pardon.
Allô. C'est Nigga qui est utilisé 185 fois, quoi.
Ah oui,
nous ne conscionnons aucun de ces termes. Hein,
ouais. Voilà, et ce qui est marrant de noter, c'est que le mot Dre, donc quand André parle de lui-même, tu vois, genre en mode ego trip, il le dit quand même 63 fois.
Ah oui, d'accord, voilà, il est là, il s'impose.
Au cas où
on
n'avait pas compris,
il se fait un peu
son album.
Et un truc assez marrant, c'est que y a une version en fait instrumentale qui existe de l'album où t'as que les instrus, ça c'est pour les
DJ. Et c'est pourquoi? C'est pour chanter dessus?
Ouais, c'est quand t'es DJ pour pouvoir mixer, tu vois, pour un petit peu t'éclater.
Mais c'est
tu vois,
pas
si...
pour le karaoké.
Non, alors oui, mais pas forcément. Et t'as aussi une version en fait censurée de l'album qui est assez drôle, notamment quand t'écoutes en fait la version de The Next Episode. Greg, c'est à toi.
Top dog, light him up, Bernie. DPJC, my turn it. CPT, LBC, yeah, we hook him back up.
Voilà, c'est génial. En gros, il te manque la moitié des mots.
Mais il passait sous un tunnel à ce moment-là. Je te capte pas, là.
Je comprends rien. Non, mais t'imagines les mecs, tu sais, qui écoutaient à la radio, en fait, ce morceau, qui n'écoutent que cette version-là, ils disent, mais putain, il parle de quoi? Ça doit être quoi quand le mec il dit, tiens, j'ai bien envie de te mettre ma espèce de grosse dans ton Les gars, ils sont en train de se poser des questions.
Moi, ça me chauffe de ouf, hein.
J'adore, quoi.
Calmez-vous.
Donc, plus que tout, 2001 célèbre Los Angeles, la West Coast, la lifestyle à la californienne. Et ça, pour le coup, moi, j'avoue, c'est franchement comme ça que j'aime écouter le truc. T'es en voiture, tu fais des petits ronds avec tes bras, tu sais, vent.
Les mini-vagues.
Les mini-vagues. Et t'écoutes. Et là, moi, j'ai l'impression que je suis à Los Angeles, quoi. Enfin bon, finalement, je suis à Montreuil 93.
C'est ça, avec ton rider, personne ne comprend, mais qu'est-ce qu'elle fait?
C'est ça. Donc, c'est vraiment le manifeste du rap West Coast des années 2000. Dre s'impose comme un génie, son message est clair, on va plus pouvoir faire sans lui, il est là, il ne bougera plus. Sextuple disque de platine aux États-Unis, c'était un peu dur à dire, pardon. Quintuple au Canada, quadruple au Royaume-Uni, des disques d'or par poignée partout ailleurs, dont en France. 2001 de Dr. Dre est un carton dans les mois qui suivent sa sortie. Il sera sacré artiste de l'année aux Grammys.
Pas mal.
Et évidemment, la presse s'enflamme, les critiques sont dithyrambiques. The Source, par exemple, qui est le magazine rap aux US, lui attribue 4 micros 3 quarts.
Ah, c'est précis, hein.
Ouais, tout à fait. Le mec,
je pense qu'il y a des mecs avec des stabilos, tu vois, pareil, qui font un peu la même chose que moi, tu vois.
Et vraiment, 4 micros 3 quarts, ce n'est donné qu'aux albums supérieurs. Et donc, le journaliste Frank Williams, qui signe la critique de l'album dans le numéro de janvier 2000, précise que pour lui, vraiment, Dre est de retour et au cas où on aurait oublié, il reste le roi absolu.
Boum.
Et voilà. Donc, énorme succès qui va donner naissance à une tournée aux États-Unis et au Canada pendant l'été 2000, le Up in Smoke Tour. Yeah. Alors, je vous rappelle que donc sur scène, attention, il y a Dr. Dre, il y a Snoop Doggy Dogg, il y a Ice Cube, Eminem, c'est juste énorme.
Gros, gros casting.
Sans parler des invités différents tous les soirs, hein, notamment Proof, Nate Dogg, The D.O.C., Exhibit, enfin, franchement, c'est incroyable. J'imagine les gens qui sont allés voir le concert, ils ont dû halluciner des mecs qui avaient sur scène.
All star du rap de l'époque. Quoi.
Ah, j'imagine, ouais.
Moi, je donnerais tout pour voir un concert comme ça aujourd'hui, quoi.
Bah ouais. Moi, j'avais vu Jay-Z et Beyoncé, mais je suis pas sûre que ce soit pareil en fait.
Pas tout à fait.
Donc, 44 concerts avec une setlist tirée des albums de The Marshall Mathers LP d'Eminem, 2001 de Dr. Dre, The Last Meal de Snoop Dogg et War and Peace Volume 2 de Ice Cube. Rien que ça.
Ah, c'est du très très lourd, quoi.
Autant vous dire que c'est la grosse éclate, ça fume toutes sortes de choses, ça boit du champagne au goulot, des énormes saladiers remplis d'extasie les attendant backstage, les filles sont à poil, des poupées gonflables circulent dans la fosse, tout ça pendant plus de 2 mois. J'ai envie de te dire, ok, ont... les mecs se sont fait plaisir.
Et
quoi.
Ils ont survécu.
Et c'est énorme, quand tu regardes le truc, c'est un blockbuster. Sur scène, t'as un crâne géant, t'as une scéno, c'est
hallucinant.
C'est quoi.
Et quand tu regardes surtout les vidéos, je vous invite à le faire, les meufs dans le public sont toutes à poil.
Ouais.
Elles sont toutes à poil.
Elles montent leurs tits en permanence.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Tous les 5 minutes, quoi.
C'est hallucinant. Donc ce Up in Smoke Tour restera dans la postérité grâce notamment à une version DVD qui aura elle aussi un très beau succès commercial et deviendra évidemment iconique. Au-delà de ce véritable succès populaire, 2001 est devenu la référence absolue du rap sud-californien. Les teintes musicales déclinées par Dre sur ce deuxième album vont durablement marquer le rap sur toute la décennie qui va suivre. La carrière de Dre en tant que rappeur est alors à son apogée. Pourtant, il va mettre 16 ans à sortir son troisième album solo, Compton. Entre-temps, il aura produit tous les principaux rappeurs de la génération 2000-2010. Je cite Eminem, Snoop Dogg, Jay-Z, 50 Cent, Mary J. Blige, Alicia Keys. Ils vont tous rendre hommage à ce qui a fait l'essence de cet album 2001, une recherche de perfection sonore.
Ouais, tu m'étonnes, c'est un bon gros taré. Et ce qui me fait marrer, c'est que l'histoire de Dr. Dre, en fait, c'est vraiment le genre de mythe que l'Amérique adore. C'est vraiment le comeback, le mec
qui revient.
Ouais, qui est le mec qui était au top, qui sombre dans l'oubli, tu vois.
Total.
C'était la période entre.
Il se prend même un gros vent, quoi.
Des énormes beats, quoi. Ouais. Il se fait vraiment oublier.
Mais il explique qu'à l'époque, en fait, il se cherchait, quoi. Voilà,
oui,
il a failli faire capoter son
producteur, son. Enfin. C'est chaud quand même. Hein.
Ouais, non, c'est ultra chaud. Et puis finalement, il va renaître de ses cendres. Tu vois, moi, ça me fait penser, c'est comme Mickey Rourke, c'est comme Schwartzy, c'est comme Keanu Reeves, c'est comme tous ces acteurs, en fait. Tu vois, qui étaient de cette décennie-là, des 90s, et puis qui reviennent maintenant avec des nouveaux rôles, et voilà quoi.
C'est un peu le Bill Murray du rap, quoi.
ouais, carrément. C'est ça. Ouais.
Pardon, je référence pour nos amis bobos.
Mais moi je l'aime bien André, tu vois, déjà parce que un, il a le même prénom que mon papa, Big Up.
Pour ça.
Mais ouais, et puis deux, parce que son album 2001, c'est la super production du rap West Coast des 90s. Grégoire, est-ce que tu peux nous en parler ?
Ouais, en effet Manu, hein, c'est le blockbuster du rap US, l'album qui sera le maître étalon du hip-hop des années 2000. Un projet énorme, on l'a dit, hein, aussi difficile à résumer que la saga des Avengers, tant les personnages qui ont participé à l'aventure sont nombreux.
Alors, c'est beau cette métaphore.
Merci beaucoup. J'étais assez content de moi. Ouais. Le premier d'entre eux, de ces personnages, c'est évidemment Dr. Dre lui-même. Il a coproduit 21 des 22 titres de l'album. Il en a coécrit 15, tout en parvenant à faire travailler autour de lui près de 50 personnes. Un véritable tour de force. Avant d'être un album de rap, 2001, c'est un album de producteur dont Dre est le chef d'orchestre. André Young explique d'ailleurs en interview que si cela n'avait tenu qu'à lui, il aurait aimé disparaître complètement derrière la musique et laisser les copains faire le boulot. Et les copains, parlons-en, on en a parlé un petit peu avec Olivia, il y a les anciens comme Snoop Dogg
ouais,
présent sur The Chronic en 1992, et puis les petits nouveaux qui cartonnent, hein, Exhibit, et surtout Eminem, le prodige de Détroit, qui sort en cette même année 1999, le fameux Slim Shady, produit par, je vous le donne en mille, Dr. Dre.
C'est comme fou, par ça. Hasard, c'est fou. Hein.
Citons également Mary J. Blige, hein, parmi ses voix qui vont compter dans la décennie à venir, ou encore Jay-Z, Ghostwriter sur 2001. C'est lui qui a co-écrit Still Dre, notamment. Alors, ceci dit, 2001 n'a pas porté chance à tout le monde. Le cas le plus emblématique, c'est celui de Hitman, le rappeur le plus crédité sur l'album. Sauf que ce protégé de Dr. Dre, censé devenir à l'époque le nouveau Eminem, va complètement disparaître des des écrans radars après 2001.
Ouais, c'est vrai que je me rappelle même pas son nom.
Non.
Alors qu'il est présent sur plein de morceaux quoi.
C'est le cinquième Beatles quoi.
Exactement, c'est le cinquième Beatles.
Ok, mais on parle de quoi sur 2001, Grégoire?
Bah dans 2001, on parle beaucoup de bitches, un peu de nigga, dans Murder Inc., le titre le plus violent, on parle de tueurs à gages au service des gangs. Et surtout, on nique tous les mecs qui ont cru Dr. Dre enterré après le lancement raté de son label et l'échec de son super groupe baptisé The Firm. Un petit exemple avec les paroles de Still Dre dans lequel le docteur règle ses comptes. Et c'est Manu qui va nous rapper un petit extrait en français.
Alors, je vous promets rien, je vais faire mon max. Mais
avance rapide, les amis.
On va essayer. Mais rien qu'un truc puissant de plus, un autre CD, un classique avec lequel vous allez vibrer, que vous soyez à glander au coin d'une rue avec votre tasse ou à vous la couler peinard chez vous, mettez ce morceau. Je suis là pour présenter tous les gangsters à travers le monde, toujours à m'arrêter au coin de rue pour les meufs. Je te casserai le cou, merde, mets la tête entre tes genoux, c'est Renoir croit être les rois, mais là c'est de retour.
Wow, joli.
J'ai fait mon max. Voilà, je suis désolé.
Franchement, t'as trop assuré, Manu. Bon, vous l'avez compris, on est dans le manifeste gangsta pur et dur. C'est violent, c'est misogyne.
Non, je sais pas pourquoi tu dis ça.
un petit peu quand même. Il y a un morceau qui est quand même plus personnel, moins cliché. C'est le dernier de l'album qui s'intitule The Message, en hommage à son frère décédé 10 ans plus tôt dans une bagarre qui a mal tourné.
Since you're finishing them early, what possessed you to start them? We made a vow, later we'll regret till death do us part. Lord, I thought we was made for each other. You shouldn't connect those made to be taken away from each other. Now what I'm supposed to do? I'm only half the man that I was. I'll never last, cause my better half is up there with you. You knew what you was doing when you made us. So with all due respect, you could've forgave him. You didn't have to take him. He can take the game with him, cause he defines the word. The one who puts the G in it. Who you think put me in it? I'm feeling like my whole world is blinded. Wondering why, crying, pouring out my heart, pouring out liquor behind it. We fought like brothers, something we never should.
Ok, côté prod, Greg, on est en plein dans le son G-Funk, mais le son G-Funk du futur quand même.
Oui, c'est pas pour rien que cet album s'appelle 2001. L'ambition de Dre, c'est de créer le son du futur, une ambition énorme, symbolisée par l'utilisation en ouverture de la deep note de THX, la société fondée par George Lucas.
Ça, c'est le sound design que t'as en ouverture de Star Wars. Et alors, c'était comment de bosser en studio avec le docteur?
Bah, le docteur, hein, c'est pas compliqué. Tant qu'il n'a pas obtenu ce qu'il veut, personne ne sort du studio. C'est un obsessionnel au dernier degré. Hein. Vous pouvez aller jeter un œil, on en a parlé au documentaire The Defiant One sur Netflix, consacré à Dr. Dre, où tous les gens qui ont bossé avec lui racontent son perfectionnisme légendaire. Mais celui qui en parle le mieux, c'est sans doute Doc Gineco, chez nos confrères de Fusca. Ce dernier a enregistré un morceau avec Dr. Dre dans son studio de Los Angeles, Messi.
Oh là là.
Et quand le doc rencontre le doc, ça donne ça.
Dre, en réalité, c'est quelqu'un qui est comme ces gens-là, les peintres, les machins, les trucs. Il est complètement fou dans sa musique. En fait, il travaille de façon très simple. Il a des musiciens en permanence et des choristes en permanence sur le côté. Et lui, il produit des sons. Dès qu'il a fini, qu'il a une idée de son, il les appelle, il fait venir tout le monde. Et dès qu'il a fini un son, il m'a demandé de poser sur ce son. Et une fois qu'il a fini, et il avait une espèce de voiture Mercedes. Et une fois qu'il a fini, il met ça là-dedans et il part. Et il m'a emmené avec lui rouler. Et il écoute dans la voiture pour voir si le son est bon. Il écoute dans la voiture, lui.
Vous vous racontez quoi, là, pendant que le son il tourne?
Je parle pas anglais. Et lui non plus, je crois. Il parle un espèce de truc de Canton.
Il parle le relois, il parle un truc de ouf. Ah là là, mais
c'est
mon frère.
C'est génial. J'adore. Je pense qu'ils sont dans le même délire de chronique avec Dre.
C'est comme ça que j'imagine Snoop Dogg en français.
Ouais. Mais c'est clair, le mec il s'appelle Doc et comme référence au docteur, il a un flow à la Snoop Dogg. Clairement, il allait choper ses influences là. Et d'ailleurs, c'est sur le premier album, sur Première Consultation, qu'il a enregistré avec les choristes de Snoop Dogg. Mais là, je crois qu'il parle d'un truc qui se passe, en fait, sur l'album d'après. Il a prévu d'avoir un track sur son deuxième album, Doc Gineco. Et je sais pas s'il est sorti. En tout cas, moi, je connais pas.
Je sais pas.
Voilà. En tout cas, moi, ce qui me fait marrer, c'est que ce que raconte le doc sur le Dr. Dre en bagnole, ça me fait clairement penser à notre copain Denis Pop. Alors là, c'est rappel pour ceux qui ont écouté.
Ace of Base.
Voilà.
Oui.
Ace of Base, Denis Pop, le producteur suédois. Lui, son grand truc, c'est d'aller faire le test de la bagnole.
Ouais. Alors, c'est quoi le morceau en bagnole?
C'est quoi le test de la bagnole? Alors lui, normalement, bon, il est en Suède, donc ça lui coûte moins cher. Qu'est-ce qu'il fait? Il va balancer les sons à LA, et puis il y a un gars qui va tester le son en bagnole. À la manière de Dr. Dre, il va se balader, il va dire ouais c'était cool ou c'était pas cool, et avec ça voilà, tu sais si ça va être un tube ou pas un tube.
Bien joué.
J'adore.
Oui, pour revenir à Dr. Dre aussi, l'une de ses forces en studio, c'est qu'il peut endosser vraiment tous les rôles, hein. Ingénieur du son, musicien, mixeur, producteur, auteur-compositeur, il a comme ça cette vision sur toute la chaîne de création. Ce qui l'empêche pas de faire appel, là encore, à toute une bande de gens talentueux pour forger le son de 2001. On peut citer Melman, alias Melvin Breeden, un ancien du label Aftermath. C'est l'un des personnages clés de 2001. Hein. Il est coproducteur avec Dre de la quasi-totalité de l'album. Un beatmaker essentiel dans l'histoire du rap West Coast, mais originaire de Norfolk, en Virginie, donc sur la côte Est. Et de fait, il apporte un son à l'esthétique plutôt new-yorkaise sur les percussions de 2001, un grain un peu sale, différent du son plus lisse que l'on peut entendre sur les productions West Coast des années 90. L'une des particularités de 2001 par rapport à d'autres albums de rap de l'époque, c'est aussi la participation de nombreux musiciens de studio, aux côtés de fidèles comme le claviériste Camara Cambon. De nouvelles têtes rejoignent Dr. Dre, le bassiste Mike Elizondo, déjà présent sur l'album d'Eminem, le guitariste Sean Cruz et surtout Scott Storch, un pianiste formé aux côtés du groupe acoustique The Roots. C'est lui qui joue les cordes hypnotiques sur The Watcher ou la reprise du thème d'Halloween de John Carpenter sur Murder Inc. Mais son principal fait d'armes, c'est évidemment d'avoir composé le piano entêtant et sautillant de Still Dre, peut-être encore aujourd'hui le morceau le plus emblématique du rap West Coast. Alors ces musiciens, ils composent des titres originaux, mais aussi réinterprètent des titres de funk des années 70 ou encore des BO de films. Exemple avec Explosive, qui reprend un thème du film Shaft, Bumpy's Lament, signé du maître Isaac Hayes.
Yeah.
Track. Girls that used to turn they back, causing me to yank they arm and pose like I would do them all. Now I'm saying thank you cause they tell me.
Voilà, vous avez noté comment le guitariste Sean Cruz reprend le thème, mais en le jouant de manière beaucoup plus dynamique, beaucoup
ouais,
plus percussive.
Avec plus de groove et tout.
Et ça aussi, c'est une des
tellement bien ce morceau, c'est
ouais,
mon préféré
super
sur
bien,
l'album.
Ouais. Ouais. Et du coup, c'est une des clés aussi pour comprendre comment travaille Dre, c'est-à-dire que les samples, il va pouvoir vraiment les penser et les recréer pour faire ce qu'il a envie de faire. Quoi. Et du coup, quand tu les fais rejouer par de vrais musiciens, bah, ça t'offre beaucoup plus de
c'est
possibilités.
C'est hyper intéressant. Ouais. Du coup, je me demande si ça reste du sample dès lors que tu le refais déconstruire et reconstruire par quelqu'un.
C'est différent.
C'est une citation.
Ouais, là c'est un peu plus qu'une citation quand même. Là pour le coup, il reprend vraiment les notes. Non, là je pense
il
qu'il
va être réinterprété en fait. C'est comme s'il faisait une cover ou une reprise si tu veux. C'est-à-dire que à la limite, il
faut payer des droits quoi.
Il va payer que la moitié des droits quand ouais. même.
Alors au final, Dre n'utilise qu'un sample au naturel sur What's the Difference. Un échantillon de celui qui restera sans doute le meilleur compositeur de gangsta rap, j'ai nommé Charles Aznavour.
j'adore cette histoire.
Le morceau de 1966 s'appelle « Parce que tu crois ».
Parce que tu crois que tu es ma faiblesse. What's the difference between me and you? What's the difference between me and you?
Mais voilà. Là, ça aurait été marrant que le mec il se mette à rapper avec
Charles. Eminem versus Charles Aznavour.
Et la pourquoi battle. Pas Et pourquoi pas.
Donc là, on a vu les deux méthodes utilisées par Dre, soit l'échantillonnage, vraiment le sample naturel, ou soit la réinterprétation par des musiciens de studio. Et puis parfois, ils mélangent les deux techniques. Et c'est le cas sur The Next Episode, où il utilise à la fois, il reprend l'orchestration de The Edge de David Axelrod, qui est un compositeur californien, un peu oublié, mais qui est décédé d'ailleurs il n'y a pas longtemps, mais qui a été pillé par le hip-hop américain notamment. Et donc, il réutilise l'orchestration de The Edge, mais il réinterprète le thème à la guitare avec un musicien de studio, avec Sean Cruz. Et on écoute tout de suite ce que ça donne.
Alors c'est David Axelrod ou David Hasselhoff, parce que
j'avais un doute sur le prénom. Mais... Ouais.
Arrête-moi si je me trompe, mon cher Greg. Là, tu nous parles des influences et des emprunts, entre guillemets. Il y a quand même eu, je crois bien, quand même quelques petits procès autour de cet album. Le premier en date, c'est évidemment notre ami George Lucas.
C'était un peu grillé en même temps, tu vois.
J'avoue. Et puis, on peut parler aussi du morceau Let's Get High, avec cette fameuse ligne de basse de 5 notes, empruntée à Backstroking de Fatback, un morceau de 1980. Pour la petite histoire, donc c'est 5 notes. Dre avait quand même un petit doute, donc il est allé consulter un musicologue et le mec lui a dit non, t'inquiète, c'est basique, c'est assez banal, ça a même pas été créé pour le morceau, donc tu peux y aller tranquille. Sauf que ben, pas de bol, procès. Et là, la justice décide que en effet, ces 5 notes sont bien appartiennent bien au morceau Backstroking. Donc, si tu veux, l'avis du musicologue va quand même coûter 1,5 million de dollars à Dr. Dre.
Ça fait combien pour chaque note?
Ouais, ça fait 6 notes divisées par...
Bah on a notre ami statisticien ici.
Alors oui, alors j'ai noté que 6 notes divisées par 1,5 million de dollars plus les frais d'avocat.
Mais il s'appelait Serge Lemiteau, le musicologue.
Je sais pas, mais bon, il a bien quand même... Alors quand même, l'ironie du sort, hein, on va le rappeler, mon cher Greg, c'est qu'à l'époque...
Tout à fait, ma chère Olivia.
Donc notre ami Dr. Dre, il aimait pas trop qu'on lui vole sa musique, notamment via Napster. Il est rentré dans une guerre assez violente avec le site.
Et oui, à l'époque, t'avais Metallica, t'avais Dr. Dre, t'en avais quelques-uns qui disaient, putain, Napster, attention, ils sont en train de tout nous voler, de tout nous pomper. Attention, surtout pas.
Enfin, et en Metallica, fait, derrière, ils composent leurs morceaux, quoi. C'est ça la différence.
Jusqu'à preuve du contraire.
Je vais finir avec une balle dans la tête, moi.
T'es de quel côté, toi, Greg, sans déconner? Donc voilà, c'était le petit moment juridique.
La minute légale. Ouais. Voilà.
Allez, on écoute quand même ce.
Ah, mais avec grand plaisir, tout à fait.
De Fatback
1980.
Un morceau qui défonce tout. C'est parti.
Ok, génial, merci pour ces infos sur les samples et sur ce point juridique, Olivia.
Grand plaisir.
Greg, du coup, pour revenir un peu à cet album, c'est un album en fait qui encore aujourd'hui fait absolument référence, quoi.
Ouais, ça reste un classique, hein, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une somme de talents ahurissants. Y a beaucoup de rappeurs présents sur l'album dont on parle encore aujourd'hui. Ensuite, il y a ses compositions intemporelles. C'est minimaliste, direct, sans fioritures, et forcément ce genre de production résiste mieux à l'épreuve du temps. Et ça s'explique aussi par le son de l'album, des enregistrements de très grande qualité et un mix destiné au club. Derrière le mixage, on retrouve l'un des grands artisans du son gangsta rap, Richard Heredia. C'est ample, précis, percutant, bref, du bon gros son qui donne envie encore aujourd'hui de prendre le volant d'une Chevrolet à suspension hydraulique.
Mais
si
ouais.
Tu vois ce que je veux dire.
Mais ouais, complètement.
Boing, boing.
Mais ce qui est ouf, c'est que Dr. Dre, c'est un taré. C'est-à-dire que le mec, il va tester chacune de ses tracks sur 8 enceintes différentes. En fait, c'est un truc qui permet de vérifier que le son va aller en termes de mix sur toutes les enceintes possibles, celle de ton autoradio, celle de ta chaîne IFI ou ton radiocassette, et vérifier que ça marche pour tout le monde, pour tous les auditeurs. Ouais. Donc c'est un gros ouf. En général, on va le vérifier sur quelques enceintes, mais 8, c'est le premier à faire ça. Le mec est un perfectionniste.
Ouais, il veut transformer ton ghetto blaster en enceinte de studio, quoi.
Maintenant, il les écouterait dans, ouais, dans son casque Beats by Dre.
Bon, ça, c'est une autre histoire, parce qu'ils ne sont pas si ouf que ça, ces casques. Mais il les a très bien marketés.
Toi aussi, tu vas finir avec une balle dans la tête.
Alors c'est cool, on a parlé du son, on a parlé de ce qui se passait en studio. Je voudrais également qu'on parle avec toi, Fanny, de la pochette et des clips. On commence par quoi ?
Par la pochette, par exemple, qui est archi iconique dans le milieu de la musique, bien qu'elle soit un peu plus minimaliste. Alors, fond monochrome noir, en haut à gauche, on a le nom de Dr. Dre écrit en majuscule verte, sans sérif, probablement avec la police Russell Square, designée par John Russell en 1973, petite case dédiée aux aficionados du graphisme. En bas à droite de la pochette, on voit un logo représentant une feuille de cannabis dessinée sur ordi avec des facettes en relief rétro-éclairées avec un petit effet lueur verte qui flaire bon Photoshop. Et à côté, le titre de l'album 2001 dans la même typo. Sans oublier, en bas à gauche, la présence bien visible d'un sticker Parental Advisory Explicit Content qui me donnait quand j'étais ado l'impression d'être au top de la rébellion quand j'écoutais ce genre de truc interdit. D'ailleurs, c'est plus clair. J'écoutais de disques qui portaient ce sticker et plus j'avais l'impression de m'acheter une crédibilité cool au sein de ma classe et parmi mes potes. Ouais, on est un peu stoppé à cet âge.
Mais je pense que d'ailleurs, ils avaient créé ce truc-là 100% pour ça. Hein.
Ouais.
Finalement, tu le repérais et tu l'achetais, quoi.
C'était un piège à ado.
C'est ça.
Et t'achetais même le t-shirt avec simplement le Parental Advisory Explicit Content. C'était que
c'est
ça,
clair,
quoi. Et alors, ce label Parental Advisory, il sort d'où ?
Bah écoute, il est apparu en 1985 suite à un accord entre l'Association interprofessionnelle de l'industrie du disque aux États-Unis et deux associations conservatrices de parents préoccupées par les contenus explicites dans la musique, c'est-à-dire des morceaux dont les paroles parlent de sexe, de violence, d'alcool, de drogue, d'occultisme, bouh, tous les trucs qui font peur. Et donc le premier album à en être affublé, c'est Jazz from Hell, un disque, je précise, instrumental. De Frank Zappa qui date de 1986. Et Zappa, c'était un des grands opposants à ce projet de sticker et c'est pour ça qu'il en a fait les frais, le pauvre. En France, il n'y a aucune obligation de mettre ce genre d'avertissement sur les pochettes d'albums, mais il y a des rappeurs comme Booba ou Kaaris qui l'ont fait parce que c'est trop stylé.
Bah ouais, c'est ça.
J'adore. Est-ce qu'ils l'ont traduit ou pas, tu vois ?
Je
pense que la trad, elle doit être bien moche.
Je sais pas. Alors, pour revenir à la pochette de l'album 2001, citons les personnes qui ont travaillé dessus, le designer graphique Jason Clark et les deux photographes Don Thompson et Stan Musilik qui ont réalisé les photos qui se trouvent à l'intérieur du livret, genre la photo de Dr. Dre penché sur sa table de mixage avec le nez plongé dans un sachet d'un kilo de weed.
Ouais. Ah ouais. C'est l'époque où il était encore un petit peu grassouillé, c'était avant de se mettre à la muscu.
Vrai. C'est ça, ouais. Et à part asseoir l'image de gangster de Dre et sa bande, c'est pas très intéressant. Ce qui m'a le plus frappé et que j'ai envie de souligner, c'est la filiation évidente entre cette pochette et les codes esthétiques du film Matrix, sorti tout juste 8 mois avant l'album.
Mais oui.
Je me rappelle parfaitement en 99 le choc visuel et culturel que ce film a été pour tout le monde, l'avancée technique de ouf que ça représentait en termes d'effets spéciaux, et puis le scénario qui était lié au virtuel, au numérique, à l'informatique, était hyper actuel dans cette époque où Internet n'était pas encore devenu roi. Et pour moi, perso, Matrix c'est un énorme tournant, c'est peut-être le film qui a le plus marqué mon adolescence. Et ça m'étonne finalement pas du tout que ce truc hyper reconnaissable de la typo digitale verte sur fond noir qu'on voit dans le film se soit retrouvé sur la pochette de Dr. Dre, vu que son but c'était lui-même de créer un album qui annonce l'entrée dans une nouvelle ère musicale, dans le nouveau millénaire. Et alors on pourrait penser qu'une fois parti sur cette bonne lancée, le disque a été accompagné de clips innovants, et bien
pas du tout,
pas vraiment.
Laisse-moi deviner, non pas du tout.
Alors on en dénombre 3, hein, sorti dans le cadre de la promo, style Dre, sorti en 99.
Bon, arrête de te moquer parce que tu le disais aussi, je suis sûre.
Forgot About Dre, sorti en janvier 2000, et The Next Episode en juillet 2000. Sur les 3, il y en a 2 qui sont lourdissimes dans le style gangsta rap. Dans Still Diary, par exemple, réalisé par Hype Williams, on voit Dr. Dre et ses potos Snoop Dogg, Exhibit, Shaquille O'Neal, Warren G, Eminem, D.O.C. rouler en lowrider à travers Los Angeles. Il y a plein d'autres voitures qui rebondissent, remplies de thugs et de meufs à moitié à poil qui twerkent au rythme des basses. À un moment, toutes les voitures se retrouvent sur un parking au bord de la plage et ça tourne en méga block party avec des centaines de gens qui dansent et matent toutes les poufs environnantes. C'est passionnant.
Bah, c'est génial, moi j'aimerais tellement en être, quoi. Mais t'as tellement
c'est
envie de vivre.
C'est ta vie rêvée, ça, Manu.
Mais oui,
ouais,
bien
à
sûr.
Versailles.
on va dire qu'ils ont beaucoup
bossé. Tu rêves de ce que t'as pas, tu vois.
Ils ont beaucoup bossé en studio, ils ont pas trop bossé sur les clips, quoi. Voilà.
C'est ça, c'est ça.
Avec le clip de The Next Episode, réalisé par Paul Hunter, on va un cran au-dessus dans la beaufitude. Ça se passe dans une boîte de nuit avec des gogo danseuses qui font du pole dance pendant que les mecs leur balancent du cash à la gueule, picolent et fument des spliffs en crachant la fumée dans l'objectif de la caméra.
Le rêve,
clair. Ça me fait vraiment rêver. Hein.
C'est pas très féministe comme clip, je trouve.
Il n'y a pas de scénario et pas d'autre intention dans ces deux vidéos que de faire l'apologie du combo habituel sexe, drogue, fête et alcool. Alors quand on regarde ça au premier degré, c'est vraiment exaspérant de nullité, hein, disons les choses telles qu'elles sont. Mais si on veut creuser un peu pour comprendre le pourquoi du comment, on peut presque prendre ça comme des illustrations sociologiques de ce que sont le gangsta rap et le rap osco, c'est-à-dire des courants musicaux issus de la pègre, dont les premiers MC étaient eux-mêmes des vrais dealers, des vrais membres de gang comme Ice-T ou Eazy-E dans NWA par exemple.
Ou Snoop Dogg, qui clairement lui est arrivé dans le game juste parce qu'il dealait. Il était proxénète lui ?
Ouais, je crois, ouais. Okay. Ouais. C'était un pimp.
Sacré dog. Y a des thèmes récurrents comme la misogynie, la violence, le racisme, la drogue, le proxénétisme qui faisaient réellement partie de la réalité de tous ces mecs en fait. Ou parfois aussi leur donner un peu l'opportunité de se faire une place dans le milieu très concurrentiel du hip-hop en allant encore plus loin dans la vulgarité et dans la frime. Et c'est comme ça qu'ils se faisaient un nom. Concernant Dr. Dre, on peut se demander à quel point cette image de voyou, hein, elle est exagérée ou pas. Genre dans The Defiant Ones, dont on a déjà parlé, sa propre mère se demande pourquoi il y a autant d'insultes dans ses chansons alors qu'il n'en prononce jamais dans la vie. et concernant l'album, on a vu 2001, justement, on a vu tout à l'heure que c'est la femme de Dr. Dre qui lui a conseillé de revenir aux sources avec des morceaux les plus trash possibles.
T'imagines un petit peu quand même pour lui le choix cornélien entre les deux femmes de sa vie, sa mère et sa femme. Putain.
Franchement, sa mère, je la crois pas trop, évidemment. Hein, il va pas jurer devant sa mère, il va pas lui dire hey, salut, bitch.
Passe-moi le gigot. Je t'entends pas, maman.
Bon, alors dans le genre hardcore, il va être bien épaulé, hein, le André, par son nouveau poulain, l'enfant terrible de Detroit, aka Eminem, qui est réputé pour ne respecter rien ni personne dans ses morceaux. Et c'est lui, Eminem, qui écrit intégralement les excellentes paroles de Forgot About Dre, dans lequel on l'entend rapper sur le refrain. Et cette collab de haut vol va donner lieu, selon moi, au meilleur des 3 clips de l'album, réalisé par Philippe G. Atwell, qui a d'ailleurs remporté un prix aux MTV Awards en l'an 2000.
Applaudissements.
La vidéo.
Et nous recevons ce soir Philippe G. Atwell qui va nous raconter comment il a fait ce clip.
Sacrée soirée. Alors, la vidéo s'ouvre avec Dr. Dre en train de chanter de nuit devant un marchand de journaux. On le voit aussi dans un couloir au mur rempli de disques d'or et de platine en référence à sa florissante carrière de producteur. Eminem chante en parallèle dans une allée sombre. On enchaîne avec une autre séquence dans laquelle les deux arrivent bourrés devant une maison de banlieue. Ils sortent de voiture pour pisser et vomir sur la clôture d'une vieille qui leur hurle de dégager de là, hein, sinon elle appelle la police. Et quelques instants plus tard, la baraque de la vieille est en feu et Eminem est interviewé par une journaliste qui couvre en direct cet incendie. Donc on devine évidemment que c'est lui qui est à l'origine de cet incident.
Et ce qui est marrant, c'est qu'il apporte un faux témoignage. Il dit ouais, non, moi j'étais là, j'étais tranquille, j'ai pas compris ce qui se passait, j'étais en train d'écouter Will Smith. Ouais. Bon foutage de gueule, quoi.
J'adore ce truc, c'est hilarant, genre ouais, je comprends pas, j'écoutais mon CD de Will Smith. C'est très 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 drôle. Regardez ce clip qui est très cool et qui est donc gonflé, cynique, hyper drôle à la fois. Et pour moi, là, on est en plein dans ce que Dr. Dre a voulu créer avec son album, comme il le déclare en 1999 avec son interview au New York Times.
Je n'essaye pas d'envoyer des messages ou quoi que ce soit avec cet album. Je fais simplement du hip-hop hardcore et essaye d'y ajouter une touche de comédie dark ici ou là. Très souvent, les médias prennent ça et essayent d'en faire autre chose, alors que c'est juste du divertissement à la base. Vous ne devriez pas le prendre au pied de la lettre. Cet album est comme un film, avec des situations variées. Vous avez des montées en puissance, des moments touchants, des moments agressifs. Vous avez même une pause for porno. Il y a tout ce qu'il faut mettre dans un film.
Oui, bah ça c'est son style de film. Hein. On va pas juger.
J'adore, bon, tu parles comme André Téchiné, tu vas expliquer son truc.
N'y voyez pas peut-être le fantasme de l'artiste.
Non.
Voilà, bah, puisqu'on parle de film, je voudrais conclure en invitant tout le monde à regarder...
Tout le monde
le documentaire dont on a parlé mille fois, The Defiant Ones, et aussi Hip Hop Evolution sur Netflix, qui sont génialissimes. Et le film Straight Outta Compton, qui raconte le parcours du rappeur, producteur, entrepreneur de
selon
génie.
Lui-même.
Et il y a quelque chose de complètement fascinant pour moi, d'un point de vue social et historique, dans tous ces récits sur la naissance du hip-hop, le parcours de Dr. Dre en particulier. Donc vraiment, foncez, vous m'en direz des nouvelles.
Et ce qui est encore le plus rigolo, c'est de voir notre ami Dr. Dre à ses débuts dans le World Class Wrecking Crew. Qui est énorme.
Avec voilà. Ses petits habits de satin
de
rouge.
Chirurgien.
C'est énorme, ça. C'est énorme. Si vous voulez le voir essayer de faire mal du breakdance, c'est là-dedans que vous allez pouvoir trouver ces images. Mm-mm. Voilà, alors on a bien fait le tour de cet album, on a parlé de weed, de suspension hydraulique, on a parlé de samples et de tout un tas de trucs, on a parlé de bitch, de niggas et de plein de mots interdits. Alors maintenant, c'est l'heure du bilan. Alors que reste-t-il de Chronique 2001 en 2020? Eh ben, on va commencer par toi Fanny.
Bah écoute, pour moi c'était un gros plaisir de réécouter cet album. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait des années que j'écoute plus de rap. Et un peu à regret, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plusieurs mois, j'ai commencé à regarder Hip Hop Evolution. Et ça m'a remis dans le bain. Et j'ai pas mal réclamé au sein de l'équipe qu'on fasse un épisode sur le rap US. Donc j'étais hyper contente d'avoir l'occasion de me replonger en 2001.
Alors non. C'est un album sorti en 1999.
Et la première réécoute, j'ai halluciné de me rendre compte le nombre de tubes qui s'enchaînaient les uns derrière les autres et surtout à quel point je prenais encore un plaisir énorme à les écouter. Et même peut-être encore plus parce que du coup, pour la première fois, j'ai vraiment un peu analysé les paroles, compris le contexte.
Alors que qu'elle dit ses paroles.
You're more a bitch than a bitch. Comprendre le contexte historique aussi, tout ce qui a généré la création de ce truc. Et voilà, donc je reste hyper fan et c'est tout ce que j'ai à dire.
Eh ben c'était beau, merci pour ce témoignage Fanny. Toi Grégoire, ça t'en penses quoi aujourd'hui?
Ah franchement moi j'ai adoré, alors j'écoutais comme je vous le disais pas spécialement à l'époque, mais en fait je trouve ça ouf, ce genre de projet complètement surdimensionné, complètement grandiloquent. Ça n'existe plus aujourd'hui. Je veux dire, on est à la fin des années 90. L'industrie du disque va pas tarder à se casser la gueule. On a parlé de Napster, mais c'est un peu le début de la fin finalement. Il y a Internet qui va arriver. Et donc aujourd'hui, un projet comme ça peut pas exister. Et donc c'est complètement unique. Comme tu disais Fanny, il y a un enchaînement de tubes juste incroyable. Ouais. 21 titres, hein, c'est
22,
ça
22. 22.
Alors ça c'est un peu long, hein, parce que tout à l'heure je me refaisais la track listing et je me dis mais voilà, après The Next Episode, je décroche un peu. Alors,
il y a un peu de déperdition forcément sur 22 titres, mais quand même, par exemple j'ai écouté le dernier Eminem, qui pareil est un album assez généreux avec beaucoup de titres. Au niveau de la qualité, il y a pas photo quoi. Ça a été un gros kiff de réécouter certains titres, les tubes, mais de découvrir aussi ceux que je connaissais pas forcément, comme The Watcher par exemple,
qui est génialissime,
qui est peut-être mon titre préféré.
Très très bien.
Et alors toi, du coup, Olivia, t'en penses quoi? C'est quoi le bilan?
Le bilan, j'ai adoré. C'était super. C'était autant je te disais que en effet, en 99, je savais pas bien ce que je pouvais en faire à ce moment-là.
Tu
autant...
t'es bien encanaillé depuis.
Depuis, je suis devenue une sacrée biatch.
Bien identifié, c'est bon là.
Ah non, non, c'était un gros kiff.
Le revirement de situation.
Ah ouais, ouais, non, mais à fond. Mais en plus, il y a une espèce d'hédonisme. Tu les vois, les mecs, ouais, dans leur voiture, ils kiffent, il fait beau. Enfin, c'est un appel aux, je sais pas, aux vacances. Enfin, il y a un truc, mais qui est hyper. Comme tu disais, jouissif, généreux. Ouais. Enfin voilà, c'est un gros kiff. Moi, je, pour en avoir parlé à des potes un peu, tout le monde était là. Waouh, vous faites Dre. Oh mais j'adore. Enfin, il y a un truc dans cet album qui est hyper fédérateur. Effectivement, c'est misogyne. Effectivement, c'est un peu coquinou. et pas toujours respectueux de la dame et de ce genre de, enfin voilà, de considération féministe. Mais c'est vrai que malgré tout, quand t'écoutes, il y a un truc super positif et moi j'ai adoré travailler sur, et c'est ce que je t'expliquais aussi, c'est que je connaissais pas très bien avant l'histoire de Dre, avant cet album, parce que finalement je l'ai découvert avec cet album là et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à découvrir comment il est devenu ce producteur de dingue, quoi.
Ouais, ouais. Et comment il a traversé les 90s, ce ouais, mec, en ouais. fait, entre NWA, ouais. sa carrière solo et ce qu'il a fait ensuite avec les autres, Eminem et tout. Bon. Ouais, c'est un gros morceau du rap, quoi.
Du coup, on est tous d'accord, alors.
Non, Manu,
bah oui, moi, ouais. c'est pareil, hein. Je vais pas être super original.
Non, c'était naze.
Non, mais c'est comme vous, c'est un album, en fait. Je connaissais les quelques singles à l'époque, ouais. je vous ai raconté ça tout à l'heure. Ce qui est chouette, c'est qu'en préparant cet album, et même un peu avant, j'avais déjà écouté l'album du début à la fin, et le côté cinématographique dont tu parlais tout à l'heure, Grégoire et Fanny, c'est exactement ça. C'est vraiment, je trouve ça génial quand t'as les petites interludes.
Moi, ça me saoule complètement, ça.
Ah ouais. Ah, mais moi, j'ai trouvé
les zappes direct.
Moi, j'adore.
Ouais. Vas-y,
ah non,
balance,
ça raconte une histoire.
Mais ça fait tellement ouais. partie du ouais. truc. Ouais, quoi.
C'est partie de la mise en scène. Ouais.
T'as ouais. l'impression d'être dans GTA, tu sais, t'as les parties ouais. un peu scénographiées. Ouais. C'est génial.
Et moi, ce que je kiffe, c'est ce premier degré aussi. Les mecs, ils sont en total premier degré. Enfin,
tu penses que c'est du premier
ah ouais,
degré
bah, Snoop Dogg, je suis sûre.
Pas.
Dre, je sais pas.
Je pense qu'il y a beaucoup de mise en scène.
Oui, il y a de la mise en scène, mais ils sont dans le truc, quoi. Enfin,
oui.
tu vois.
Ils font... se l'ajoutent tous des méga thugs, etc. Ouais. qui sont à tort ou à raison. Mais clairement, ils sont pas en train de se faire des blagues, quoi. La street cred, c'est en étant
ils
plus
sont
thug,
là,
quoi.
Ouais. Ouais.
Alors, moi, pour le coup, réécouter cet album, si ça a bien déclenché un truc, c'est l'envie, mais.
De fumer.
Absolue. Absolue de voir un jour Dr. Dre en concert, quoi. Ouais. Maintenant, c'est un de mes buts dans la vie, clairement.
Bah, il a ressorti un album, je vais vous avouer, je ne l'ai pas écouté. Un album qui est sorti il y a très peu de temps, voilà, je crois qu'il est un petit peu passé à la trappe. Il vient de choper un Grammy Award ouais. pour l'ensemble de son œuvre, ouais. donc ça c'est
en
bien.
En tant qu'on... que producteur.
Ouais, c'est ouais. cool. Ouais. Et d'ailleurs, c'était l'occasion pour lui, je crois, de remercier également les autres personnes qui ont travaillé, parce que jusqu'à présent, à cette époque-là, parler de Ghostwriter, c'était quand même super mal vu.
Ouais,
les
ouais.
mecs, fallait qu'ils rappent eux-mêmes sur des textes qu'ils ont écrits eux-mêmes. La prod, pareil. Donc voilà, là c'est bien, avec le temps on se rend compte que ben il y a JD qui a écrit une partie du refrain de Still Dre, voilà, ça se dit, ça se fait, voilà, c'est, et puis maintenant c'est accepté.
Ce n'est plus tabou
et ça je trouve ça bien. Alors voilà, c'est déjà à la fin de notre émission. Est-ce qu'on a oublié de dire un truc? Non, quelque chose veut dire un mot à ajouter?
Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move the lips to the gibberish. The motherfuckers act like they forgot about Dre.
Tu l'avais préparé.
Allez,
viens là, Eminem, viens.
Répète ça.
Ça fait 15 ans que je le prépare, celui-là.
Oh putain. Ah non,
putain,
mais tu m'as scié, quoi.
T'as accompli un truc de ouf, là.
Ah ouais. Bon bah ok.
Là, je crois que là non laisse tomber là.
Je pense
que elle nous a démonté là, elle nous a démonté.
C'était le mot de la fin.
Putain, un mot en 150 lettres, putain, mortel. Écoute, c'est génial. On avait envie de partager avec vous notre avis sur ce disque culte des années 90 avec le Cassette Crew. Il y avait Fanny.
Merci.
Et Grégoire.
Merci à tous. Bye bye.
Et Olivia.
Merci.
On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode un peu spécial parce qu'on va fêter, eh oui, notre premier anniversaire.
Ah. Non si. Oh là là, ça va vite. Hein.
Il va y avoir pas mal de surprises. Alors, c'est le moment de nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Voilà, vous êtes prévenus.
Partout.
Moi, je dis ça. Et puis, laissez-nous un commentaire, un nom d'album ou des petites étoiles sur Apple Podcast. D'ailleurs, petite dédicace à un certain Romain César qui nous dit, je cite, « Très bon choix d'album, équipe sympa et bien documentée. » Voilà, ça serait bien, on prend, hein, c'est cool, allez-y. « Ça serait bien d'intégrer des archives comme des pubs radio ou TV évoquant l'album. Et n'oubliez pas de parler de première consultation de Doc Gynico. »
On y viendra.
Alors ça tombe bien, on a essayé de te faire plaisir, on a passé un peu de doc sur cet épisode, voilà, j'espère que ça le fait. Et puis voilà, nous on se quitte maintenant avec Forgot About Joey, bitch motherfucker.
Bisous,
à bientôt.
Same OG, but I've been low key. Hated on by most these niggas with no cheese, no deals and no G's, no wheels and no keys, no boats, no snowmobiles and no skis. Mad at me, cause I can finally afford to provide my family with groceries. Got a crib with a studio and a saw full of tracks to add to the wall full of plaques. Hanging up in the office and back of my house like trophies. Did y'all think I'ma let my dough freeze? Hold please, you better bow down on both knees. Who you think taught you to smoke trees? Who you think brought you to ODs? Easy E's, Ice Cubes and DOCs, the Snoop D-O double G's, and a group that said motherfuck the police. Gave you a tape full of dope beats to bump when you stroll through in your hood. And when your album sales wasn't doing too good, who's the doc that he told you to go see? Y'all better listen up closely. All you niggas that said that I turn pop or the firm flop, y'all are the reason that Dre ain't been getting no sleep. So fuck y'all, all of y'all. If y'all don't like me, blow me. Y'all are gonna keep fucking around with me and turn me back to the old me.
Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips, just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips, just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre. So what do you say to somebody you hate?
What?
Or anyone trying to bring trouble your way? One of his off things in the blood of your way?
Yep.
Just study your tape of NWA. One day I was walking by with a Walkman on, when I caught a guy, give me an awkward eye.
You looking
strangled
at?
Him off in the parking lot, but it's dark and I don't give a fuck if it's dark or not. I'm harder than me trying to park a Dodge, but I'm drunk as fuck, right next to a humongous truck in a two-car garage. Hopping out with two broken legs, trying to walk it off. Fuck you too, bitch, call the cops. I'ma kill you and them loud-ass motherfucking barking dogs. And when the cops came through, me and Dre stood next to a burnt-down house with a can full of gas and a handful of matches, and still weren't found out.
Right here.
So from here on out, it's the chronic two. Starting the day, and tomorrow's anew. And I'm still local enough to choke you to death with a Charleston chew. Chicka-chicka-chicka. Slim Shady, hotter than a set of twin babies. And a Mercedes Benz with the windows up when the temp goes up to the mid-80s. Calling men ladies, sorry doc, but I've been crazy. There's no way that you can save me. It's okay, go with him, Haley. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips, just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips, just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre.
If it was up to me, you motherfuckers would stop coming up to me with your hands out, looking up to me like you want something free. When my last CD was out, you wasn't bumping me, but now that I got this little company, everybody wanna come to me like it was some disease, but you won't get a crumb from me, cause I'm from the streets of I told them all them little gangsters, who you think helped mold them all? Now you wanna run around talking about guns like I ain't got none. What you think, I sold them all? Cause I stay well off. Now all I get is hate mail all day saying Dre fell off. What, cause I've been in the lab with a pen in the pad trying to get this damn label off? I ain't having that. This is the millennium of aftermath. It ain't gonna be nothing after that. So give me one more platinum plaque and fuck rap, you can have it back. So where's all the mad rappers at? It's like a jungle in a habitat. But all you savage cats know that I was strapped with gas when you were cuddling a cabbage patch.
Nowadays everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips, just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre. Nowadays everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips, just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre. Nowadays everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips, just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre.
Nowadays everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips, just a bunch of gibberish, and the motherfuckers act like they forgot about Dre.